carotte glaciaire.
C'est une carotte glaciaire.
C'est... Non, je vais dire une bêtise.
Moi, ça me fait penser à l'âge de glace.
Bonjour à toutes et à tous, quelle joie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen. 2 heures chaque après-midi pour décrypter notre époque à travers ses mots, ses expressions, parfois même, comme aujourd'hui, ses techniques. Car on va zoomer sur un objet de haute technologie, la carotte glaciaire. Elle permet de forer la glace en profondeur et d'aller révéler les secrets de notre passé en récupérant des échantillons d'atmosphère vieilles de plusieurs centaines de milliers d'années. Sauf qu'avant de planter sa carotte en s'exclamant fièrement
« Drill, baby drill !»
comme Cyril l'avait fait dans d'autres circonstances que nous ne détaillerons pas ici, le scientifique doit d'abord se rendre en Antarctique. Car c'est là-bas que la glace a le plus de choses à nous raconter. Et c'est justement ce qu'ont fait nos invités aujourd'hui, une glaciologue et un explorateur qui vont nous raconter leur mission. Une mission d'une grande intensité qui n'est pas sans rappeler celle que j'avais moi-même effectuée en Laponie, au péril de ma vie, à l'âge de 8 ans. Alors certes, nos invités ont traversé 4000 km en 80 jours en kiteski, des skis à voile, mais je ne suis pas en reste côté aventure, puisque donc à l'hiver 1990, alors que j'étais en CE2, je suis parti avec ma classe en expédition arctique en Laponie et nous avons traversé d'est en ouest pays en chien de traîneau. Expédition que je raconterai dans les dîners jusqu'à l'âge avancé de 22 ans, agrémentant le récit tantôt d'une rencontre avec un ours blanc que j'avais maîtrisé à main nue, tantôt d'une meute de loups que j'avais amadoué en sifflant, jusqu'au jour où, et c'est là que c'est vrai, ma mère étant présente autour de la table quand je racontais l'histoire, elle m'annonça la triste vérité. Non, l'école du centre de Ferney-Voltaire dans l'Ain n'avait pas organisé une classe de neige en Laponie. La maîtresse nous avait juste emmené découvrir la reconstitution d'un village lapon dans le Jura, à 40 km de l'école. Mon monde venait de s'écrouler. Non, je n'étais pas un intrépide aventurier.
Je n'étais jamais
allé en Laponie. Bon, en y repensant, le fait qu'on n'ait pas pris l'avion et qu'on soit allé en Laponie en car, qui plus est, en moins de 2 heures, aurait dû m'interroger. Comme quoi, c'est Manon qui avait raison. À 8 ans, j'étais déjà un peu bébête. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Noël.
Vous avez raconté ça jusqu'à vos 22 ans. Vous étiez bébête jusqu'à vos 22 ans.
L'âge exact, mais j'étais adulte. Oui. Et un jour, ma mère m'a dit mais non, mais tu crois vraiment que t'es allé en Laponie? Et je j'ai cru. Bah, c'était bien reconstitué.
C'est
on a fait du chien de traîneau. J'étais revenu à la maison avec des poils de husky.
C'est parce qu'il s'appelle Noël. Il y a un truc.
Ah
oui.
C'est ça.
On y va. Avançons. Eddie Sévest, Mathieu Tordeur, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter. Alors Eddie, vous êtes glaciologue. Mathieu, vous êtes explorateur. Eddie, quand on vous a mis en contact avec Mathieu, il paraît qu'on vous l'a présenté ainsi.
Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise, avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine, avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos.
Alors, je ne sais pas si vous êtes arrivé avec les poches bourrées de pesos, comme Chuck Norris, mais vous revenez tous les deux d'une mission incroyable en Antarctique, sous l'égide de l'UNESCO. On va y revenir. L'objectif était de cartographier les glaces de la calotte polaire. Pour cela, vous avez utilisé des radars embarqués. Heidi, vous disiez vouloir révéler l'histoire cachée de la glace. Avez-vous réussi? C'est ce que vous allez nous raconter. On va aussi parler plus globalement de votre métier de glaciologue, des carottes glaciaires qui fournissent énormément d'informations sur notre environnement. Juste le temps de vous présenter justement deux explorateurs légendaires de Radio France, Manon Mariani, Quentin Louis, bonjour.
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 Bonjour à tous.
On est aussi un binôme qui évolue dans des contrées lointaines.
Mais d'abord donc, direction l'Antarctique, nos invités en reviennent. Eddie Sévest, Mathieu Tordeur, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est sur la réacclimatation. Comment on revient à la vie urbaine? Qu'est-ce qu'on ressent quand on a passé 80 jours à glisser sur des kiteskis au pôle sud?
Bah en fait, on a les sens complètement anesthésiés en Antarctique pendant 3 mois. On sent rien, on voit que du blanc de la neige, que du bleu du ciel. Donc quand on arrive à la civilisation, on a notre cerveau mais qui est complètement décalqué, quoi. On est complètement retourné. Moi, je me souviens juste la première respiration qu'on a faite en arrivant en Amérique du Sud à la fin de l'expé. C'était comme si quelqu'un avait, jeté des vitamines dans l'air, quoi. L'air avait une odeur, mais absolument extraordinaire.
Ah ben, extraordinaire dans quel sens? C'est désagréable ou c'est au contraire?
Au contraire, on sentait de la végétation, en fait.
Ah, ça fait du bien sentir. Oui, la végétation, c'est...
Qu'on n'avait pas senti d'arbre. C'était l'été en Amérique du Sud, les fleurs, les pins, c'était dingue.
Et vous, Mathieu?
Ouais, l'Antarctique, c'est un univers qui est très stérile et très pauvre pour les sens. Il y a très peu de couleurs. Quand il fait pas beau, c'est un univers qui est très monochrome, avec du blanc, du gris. Parfois, il fait beau, donc on a un beau ciel bleu. Mais c'est vrai que des couleurs, on n'en a pas vu beaucoup. Et puis, il fait moins de 0 degré en permanence, donc il n'y a pas d'odeur. Donc, comme le dit Heidi, quand on revient dans le monde réel, c'est vraiment un cocktail de saveurs pour les sens. Donc, le retour fait plaisir. Le retour dans un lit chaud, prendre une douche tous les jours,
c'est
fait aussi
mal,
plaisir. Parce qu'après 3 mois d'expédition en autonomie, astronomie, bah, je peux vous dire qu'on n'a pas vu beaucoup la couleur d'une douche et d'un lit.
Vous avez ramené une belle marque de bronzage, en
oui.
tout cas.
Ouais, alors effectivement, on était très couverts. Hein, et puis parfois, voilà, on enlevait nos lunettes de ski, nos masques de ski. Et c'est vrai que j'ai un bronzage un peu particulier. Je suis content qu'on soit à la radio.
Ouais. Oui, mais vous êtes filmé quand même, vous inquiétez pas. Lui, ce n'est pas le courage qui lui aurait manqué pour se taper 80 jours de kiteski, c'est la technique. Déjà qu'à chaque vacances d'hiver, à Samoins, où sa femme l'a inscrit au cours découverte du ski de piste senior, il a du mal à skier serré.
Planter du bâton ne marche pas du tout.
Clairement, le kiteski, vaut mieux pas qu'il essaye. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Vous êtes bon en ski, Cyril ?
Je skie.
Ah. Très bien.
Non, je suis ça. Je me débrouille.
Ça veut dire bof, ça ?
Non, je me débrouille, franchement.
Vous débrouillez.
Oui. C'est l'essentiel.
Piste noire ?
Oui, mais c'est pas le plus drôle, les pistes noires.
Oh, piste. Ouais.
Non, mais plutôt, c'est pas drôle.
Il est plutôt hors piste. Voilà.
Fatigant avec mon dos, mon âge, tout ça.
C'est vrai que ça fait beaucoup.
Allez.
Cyril, racontez-nous les carottes glaciaires, d'où ça sort.
Imaginez, vous tenez dans votre main un petit morceau de glace, vous le faites fondre et vous entendez un léger pchit. Ce bruit, c'est de l'air qui s'échappe. Mais attention, pas n'importe quel air. C'est peut-être l'air qu'a respiré un mammouth laineux, ou l'air qui soufflait sur Rome à l'époque de Jules César. C'est ça la magie des carottes glaciaires, de longs tubes de glace situés à 3 km sous la banquise, et que l'on extrait des pôles pour lire le passé.
Et étonnamment, Cyril, à l'origine, ce n'est ni de la recherche scientifique, ni archéologique, mais militaire.
À la fin des années 50, l'armée américaine décide de construire une base secrète sous la glace du Groenland. Déjà le Groenland pour les Américains, cette base s'appelle Camp Century. Les États-Unis racontent que ce camp doit permettre le travail de scientifiques. Il doit en fait surtout servir à planquer 600 missiles nucléaires sous la calotte glaciaire à portée de l'URSS. C'est le projet Iceworn, le ver de glace. Pour y arriver, les militaires développent des technologies de carottage ultra pointues. Alors le projet est avorté, mais la technologie de forage reste. La suite, c'est la grandeur de la France.
Ah.
Nous sommes en 1965. Le glaciologue Claude Lorius est en Antarctique. Pour se détendre, après une journée de forage, Lorius et ses collègues se servent à whisky et y mettent un glaçon. Mais voilà, ce glaçon n'est pas n'importe quel glaçon. Il laisse échapper des bulles en explosant. Lorius a une intuition. Ces bulles, ça serait de l'atmosphère fossile piégée dans la glace.
J'aurais eu la même intuition.
J'imagine, évidemment. Alors, d'où ça sort les carottes glaciaires ? Eh bien, d'une erreur stratégique majeure. On ne met pas de glaçon dans le whisky.
On the rocks.
Non, surtout pas.
On the rocks, non.
Mais une erreur qui s'est révélée payante pour l'humanité. Et c'est justement le début de notre histoire.
Merci Cyril. Eddie Sévest, expliquez-nous comment ça marche. La glace piège des gaz de l'atmosphère et les conserve pendant des années, des milliers d'années, c'est ça ?
Ouais, c'est extraordinaire. En fait, la glace, par exemple la glace de l'Antarctique, elle se forme d'une façon toute simple, c'est des chutes de neige, année après année, qui vont s'accumuler. Ces couches de neige, elles vont devenir de plus en plus lourdes, elles vont se densifier, se transformer en glace. Quand vous faites un bonhomme de neige ou faites un igloo, vous savez que la neige, c'est assez légère. Ou quand vous partez faire du ski à Samoins, vous savez que la neige est assez légère, elle est pleine d'air. Donc en fait, quand ces couches de neige s'accumulent, au bout d'un moment, l'air n'arrive plus à s'échapper. On se retrouve prise au piège dans ce millefeuille de couches. Et aujourd'hui, en Antarctique, quand on va en profondeur, il y a pratiquement jusqu'à 4 km d'épaisseur de glace en Antarctique, et bien en fait, plus on va en profondeur, plus on remonte le temps, plus on trouve de ces petites bulles d'air, des petits échantillons d'atmosphère qui peuvent être extrêmement anciens. Aujourd'hui, on cherche quand même des petites bulles d'air qui peuvent avoir plus de 1 voire 2 millions d'années en Antarctique.
2 millions d'années ?
Donc c'est super précieux, ça, pour reconstruire l'histoire de notre planète.
Et ça, c'est à combien ? Il faut creuser à combien pour atteindre 2 millions d'années, pour remonter le temps ?
Alors, il y en a qui sont assez profondes, et parfois la glace fait des schmilblick un peu bizarres, parfois elle arrive à remonter carrément à la surface, donc c'est très bizarre.
Et comment on arrive à savoir que ça a 1 million, 2 millions d'années ?
Ouais, alors ça c'est une super question. En fait, on a besoin de la comparer avec parfois on a des pollens, parfois on a des petites poussières qu'on arrive à dater. Le must c'est d'avoir une petite couche de cendres d'une éruption volcanique qu'on arrive à retrouver. Et là, ça nous permet de dater justement ces différentes couches de glace.
Je me tourne vers vous, Marie Debreuer. Marie, vous nous donnez des nouvelles du trafic de drogue aujourd'hui.
Des laboratoires clandestins de cocaïne se sont installés dans nos villages français. Oh, et oui, les trafiquants de drogue aussi se mettent au vert. Ils ont raison, quoi. Le cadre de travail, c'est important. Vous croyez que c'est facile de fabriquer de la cocaïne toute la journée dans un petit appartement en ville, alors que pour le même prix, on pourrait aller voir une grange dans le Maine-et-Loire, hein ? Du coup, entre deux sessions de production de cocaïne, nos petits laborantins, ils pourront faire une pause pour respirer le bon air pur, quoi. Qui sent l'herbe fraîchement coupée, la rosée du matin, le crottin de chèvre, l'odeur de la campagne, quoi. Je connais bien, j'ai pris un Airbnb une fois. Après, les trafiquants, je ne sais pas s'ils seront sensibles à l'odeur de la nature, parce parce qu'ils ont les cloisons nasales détruites. Mais bon, voyons le pochon à moitié plein. C'est quand même sympa d'avoir un petit jardin pour la pause-déj. Cette histoire de laboratoire en campagne, c'est aussi une bonne nouvelle pour les consommateurs, hein, qui vont pouvoir acheter directement aux producteurs locaux, qui seront dans leur résidence secondaire dans le Perche. Rosé, piscine et cocaïne, on va s'éclater à le VGF de Mathilde. N'est-ce pas merveilleux? Par contre, j'ai vu les photos de laboratoire à la campagne qui ont été démantelées. Va falloir faire quelque chose pour la déco. Hein, d'accord, ce n'est qu'un lieu de travail, mais quitte à aller à la campagne, je pense qu'il faut deux, trois touches un peu cottage. Hein, peut-être un rideau en toile de Jouy, par exemple. C'est une proposition. Hein. En plus, il y a plein d'Emmaüs ou de ressourceries, donc vous pouvez trouver des petites pépites. Ce sont des chimistes colombiens qui viennent s'installer en région. Hein. Il paraît qu'ils ont eu l'idée en voyant l'émission Un dimanche à la campagne. Anciennement, la parenthèse inattendue. Voilà. Ils étaient là. Qui est né, Frédéric Lopez? Mais c'est Lopez du cartel de la vallée des Chevreuses. Et c'est l'épisode où Big Flo et Oli prennent le petit-déj avec Charlotte de Turquem qui leur a fait réaliser quoi. Est-ce possible la cocaïna à la campagne? Il faut manger la tartine au beurre avec la confiture para comer la tartine avant de fabriquer la cocaïne. J'ai fait allemand LV2. Mais si j'imite un trafiquant de cocaïne avec l'accent allemand, ça ne marche moins bien. Et pour être tout à fait honnête, j'imite vraiment mieux l'accent anglais. C'est du British qui est installé depuis longtemps en France et oh my god, c'est Marie ou Jane Birkin. It's Marie because Jane is dead. Anyway. Et pour transporter la cocaïne d'Amérique du Sud vers des laboratoires en dupant les douaniers, la cocaïne était mélangée à de la pulpe de fruits. Et oui, vous vous demandiez à quoi servait la pulpe qui était retirée des jus d'orange sans pulpe avec des gros bébés qui n'aiment pas boire le jus parce qu'avec la pulpe, ça fait des petits fils entre les dents qui sont exactement les mêmes bébés qui mangent pas de yaourt avec des gros morceaux. Eh bien, cette pulpe est utilisée pour trafiquer de la drogue. Ah, Mathias, t'es content? Croque-moi dans cette orange avec la peau directement, Mathias. Mais Marie, c'est qui, Mathias? Mais j'en sais rien. Mais mon dingue. Je fais n'importe quoi dans cette chronique. Je suis complètement loco, loco, la galactique. Mais non, tu parles espagnol avec l'accent allemand. What's going on? Ich liebe dich. No es amor, es una obsession. Stop it now.
Merci Marie Debreuer. À suivre, direction Cap Canaveral pour tout comprendre de la mission Epsilon de Sophie Adeno. On parlera aussi de la société des commentaires. Le temps de s'écouter Holly Cook, We Share Love, sur France Inter.
We share love together. Ooh, baby, we share love together.
France Inter, les meilleurs moments de Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël et toute sa bande.
8 mois à se tourner les pouces sans pouvoir bouffer des rognons à la crème, l'aventure spatiale, ça sera sans moi, avait écrit Cyril Lacarrière dans son dernier mail au directeur de la NASA. Finalement, c'est depuis la maison de la radio à Paris que nous zoomons aujourd'hui sur la mission Epsilon. Le directeur de la rédaction de Ciel et Espace, Alain Sirou, est avec nous. Alain, cette mission Epsilon est donc portée par la spationaute française Sophie Adnaud. C'est elle qui en est responsable ?
Non. Il y a un chef, ce qui est une chef, ouais. qui dirige la mission, et puis à bord de la station, Il y a quelqu'un qui dirige la station spatiale et ça tourne. En fait, c'est son premier voyage. Pour les autres, certains sont déjà partis.
Ils sont déjà allés, d'accord.
Donc en fait, il faut être un peu capé. Simplement, Sophie Adnaud a attendu très longtemps pour partir et aujourd'hui, je dirais, l'essentiel, c'est qu'elle y soit. Pour elle, ce qui est merveilleux, c'est d'y être. Et elle le dit d'ailleurs. Elle appelle ça son plan B. C'est-à-dire que le plan A pour elle, c'est ce qu'elle explique, c'est de faire ce qu'elle veut de sa vie d'abord. Ça, c'est le plan A. Puis le plan B, bah, si on part dans l'espace, c'est génial. Et donc ça, j'adore, parce que elle vit dans son rêve, pour le compte, tout en faisant un vrai travail.
Ben oui, alors c'est quoi cette mission ?
Je vais vous donner une définition qui va vous paraître bizarre, mais le travail d'astronaute, d'après Jean-François Clairvoy, qui a volé 3 fois à bord de la station, c'est, alors je vous donne exactement le mot qu'il dit, c'est un travail d'opérateur de machine complexe dans un environnement contraint. Ça vous fait rêver.
C'est moins sexy.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des centaines de personnes qui sont passées à bord de la station. Et tous collaborent à des expériences qui sont très diverses et certaines durent depuis des années et des dizaines d'années.
Ah, on reprend une expérience c'est possible, on peut reprendre une expérience qui est en cours depuis
tout
longtemps.
Tout à fait. Et puis on emmène des nouvelles. Mais en gros, c'est quoi ? En gros, c'est on étudie la façon dont le corps humain se comporte en apesanteur. Parce que sur la Terre, on est influencé par la gravité. Si on enlève la gravité, qu'est-ce qui se passe ? Ben, on a le cœur qui bat trop vite,
dites pas trop parce qu'il va y avoir dans le Zoom Zoom Test des questions qui seront relatives aux effets de l'apesanteur.
Oui.
C'est tout à fait grave, Quentin, c'est tout à fait grave, une séquence importante de l'émission.
Donc on étudie ça, puis on étudie plein de choses sur les matériaux, sur la physiologie, on fait des tas et des tas et des tas d'expériences, et elle participe à 200 expériences, et il y en a beaucoup plus que ça.
Mais j'ai lu que sur la mission Epsilon, ils allaient quand même essayer de préparer le futur, notamment d'un point de vue technologique, pour d'éventuelles explorations habitées vers la Lune et Mars.
Oui, ça c'est la prochaine destination. En tout cas, la Lune, c'est la prochaine destination. Rien n'interdit de penser que Sophie Adnaud ira un jour sur la Lune. Possiblement, dans les années qui viennent, il y aura un astronaute ou une astronaute européenne sur la Lune, et pourquoi pas elle, finalement.
J'ai lu que la mission Epsilon devrait durer 8 mois.
Oui.
Ces 8 mois seront aussi mis à profit pour faire la pédagogie auprès des plus jeunes. Est-ce que c'est important de sensibiliser, on va dire, les plus jeunes aux enjeux spatiaux d'aujourd'hui ? Parce que c'est vrai qu'on ne les comprend pas forcément.
Alors, pas seulement les enjeux spatiaux, bien sûr les enjeux spatiaux, parce que d'abord, je vous rappelle que c'est nous les contributeurs, hein,
c'est notre
argent, etc. Mais aussi, c'est une inspiration pour les jeunes filles. Elle le dit très bien, elle dit, moi quand j'avais 12 ans, j'ai vu Claudie Aigneret partir dans l'espace. Elle avait, Mathieu n'avait pas ce poster-là dans sa chambre, mais elle avait un poster de fusée, elle, dans sa chambre à 12 ans. Et donc, son rêve, c'était de partir dans l'espace.
Pourquoi il n'y a eu que 2 femmes, d'ailleurs ?
Moi, je pense qu'il y a beaucoup de raisons sociologiques. Mmh. C'est compliqué pour les femmes. C'est un métier... Alors, il y a eu 13 personnes, hein, 13 Français, il y a eu 13 Européens, pardon, qui sont allés dans l'espace, dont une Française et une Italienne. Donc, c'est pas beaucoup. Le reste, c'était des hommes. Donc, il y a des conditions.
C'est plus compliqué physiquement ?
Non.
Non ?
Pas physiquement, c'est culturellement. Mmh. Vous savez qu'il y a peut-être 20-24% des femmes dans les métiers scientifiques. Et aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de percer.
Et pardon, juste une question sur Sophie Adnaud elle-même, parce que je me rends compte qu'on n'a même pas présenté, on ne sait pas d'où elle vient, vous la connaissez, quel est son background ?
Elle coche toutes les cases qui ne sont pas les nôtres, hein, Mathieu. Elle a fait des études supérieures, elle est ingénieure, elle a fait le MIT aux États-Unis, elle a fait Super Hero, elle est pilote d'essai d'hélicoptère, elle est prof de yoga, elle joue de la musique. Ah si, par contre, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle a quelque chose, elle a un charisme, et je dirais que du Palais de l'Élysée au Café de la Place à Camaret, tout le monde la connaît. C'est-à-dire qu'on sait que c'est quelqu'un qui, quand elle sourit, on part avec, quoi. Et ce côté qui est la jeune fille hyper capée, enfin la jeune fille, elle a 42 ans maintenant, hyper capée, mais extrêmement déterminée, et puis prête à partager les choses, nous fait un rayon de soleil dans un monde qui est un peu pluvieux, comme vous l'avez remarqué.
Un rayon de soleil un peu comme vous, Alain Sirou, un des derniers journalistes à avoir pu interviewer Neil Armstrong, directeur de la rédaction de Ciel et Espace, directeur général de l'Association française d'astronomie, mais aussi inoubliable interprète de Tilala Talala. Car oui, sur Europe 1, on enregistrait même les offs. Et ce que je vous diffuse là est évidemment la partie émergée de l'iceberg qu'on peut diffuser à une heure de grande écoute.
Quoi ?
Sinon, j'ai des sacrés dossiers de Alain. Alain est donc avec nous pour évoquer la mission Epsilon. L'heure est venue, Quentin, de nous raconter ce que les gens dans la rue pensent de cette mission.
Je regarde le ciel en marchant le long d'un boulevard à Paris. Et sur un banc est assise cette dame à qui je demande si elle voudrait bien se prêter au jeu d'un micro-trottoir. Je m'assois. Quel est son prénom ?
Françoise.
Françoise, est-ce que j'aurais de vous demander votre âge ?
Non, mais je suis senior. Mission Epsilon. Bah, on avait quand même l'autre, là, Pesquet. Bon, mais on aura une femme. C'est bien. Et en plus, elle est belle.
Ah oui, vous l'avez vue ?
Oui, blonde. Très sympa.
Je lui parle de l'ISS, ce lieu où finalement se côtoient 26 nationalités.
Donc, quand on est dans un truc spatial et où on est petit, on peut être russe, anglais, tout ce que vous voulez. Le problème n'est pas là, c'est qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a plus de différence. On est être humain et on pense que on doit s'entraider. Sauf que...
Je sais pas, ça pourrait être une source d'espoir, d'utopie, de vivre ensemble sans frontières, quoi.
Je crois pas.
Ça marche que quand on est en dehors de la Terre, quoi.
Exactement.
Comme elle se revendique senior, j'ose cette question qu'on ne peut pas poser tous les jours. Vous vous souvenez de quand l'homme a marché sur la Lune ? Vous étiez jeune, non ? Trop jeune.
69.
Ouais.
Bah, j'étais jeune, oui. Plus jeune.
Vous vous en souvenez ou pas ?
Oui. Bah, on a trouvé ça très beau, très intéressant, et en même temps, on a pris des cailloux et puis on est reparti. Hein. Ça m'a pas fait grand-chose.
J'arrête maintenant cette lycéenne. Les cheveux blonds, les yeux clairs. Elle plisse les yeux pour découvrir...
Mission Epsilon. Epsilon.
Je lui explique cette mission de la Française Sophie Adno. À bord de l'ISS, elle m'arrête.
Après, il y a plein de rumeurs qui disent qu'on n'est pas vraiment allé en haut. Après, moi, je dis ça comme ça.
Oui, mais bah, Thomas Pesquet, il a envoyé des photos et tout.
Oui, mais déjà, on a eu la preuve que le drapeau ne bougeait pas.
Ah oui, c'est pour faire de la Lune.
Ouais, c'est quoi là ?
L'ISS.
Ah, merde.
C'est la Station Spatiale Internationale. Comme c'est la première à aller sur terrain, je lui demande si elle pense si l'homme est déjà allé dans l'espace.
Je crois pas qu'on est allé dans l'espace. Il y a des stations spatiales et tout, mais je pense pas qu'on est vraiment encore allé sur l'espace. Parce que je suis chrétienne et en fait il y a la tour de Babel et on nous a expliqué que on s'est battu pour aller toucher les étoiles et en fait à cause de ça on a été séparés. Il y a des langues différentes. Maintenant on peut plus tous communiquer comme avant. Voilà, moi je le sais comme ça.
D'accord.
Un peu.
D'accord. J'aime bien votre d'accord, un Quentin.
Vous êtes bouche bée, Quentin.
Un peu médusé par ce que me répond cette jeune femme, mais les complots autour de notre présence dans l'espace faisant aussi partie de ce que l'on peut entendre dans la rue, j'ai trouvé important de vous le faire écouter. Ma dernière rencontre, c'est ce jeune homme de 27 ans.
Mission Epsilon. Epsilon ou Epsilon ?
Ouais, c'est la question. On parle d'envoyer une femme, une Française, dans la Station Spatiale Internationale. Vu l'actu depuis quelques mois, c'est quand même une bonne nouvelle.
Car dans la société française, j'ai pas l'impression que ça passionne tant de monde que ça, finalement. Je sais pas.
Il y avait quand même eu un engouement
Thomas Pesquet. Thomas Pesquet a eu un sacré engouement. Après, je pense que lui, il a... Je sais pas, le bon profil aussi, peut-être pour les médias, donc il avait bonne capacité à se vendre. C'est peut-être le fait qu'il n'y en a pas eu depuis, que ça a peut-être retombé un peu. Quoi,
alors, mais... c'est vrai que la romance entre Pesquet et les Français, inscrite dans le marbre par une communication parfois jugée excessive, c'est dur de passer derrière. Mais pour ce jeune homme, c'est vraiment un peu moins dans notre culture.
Mais ouais, mais parce que le lancement des fusées se fait pas en France métropolitaine, ça c'est en Guyane ou
bon, la
France.
Ah, c'est jamais tiré de Paris.
Ah ouais, non, c'est jamais tiré. Non, oui. Ouais.
Du Bourget, ce serait rigolo.
Ouais. Non, mais parce que c'est vrai que si on compare avec les États-Unis, c'est vrai qu'il y a une vraie culture d'aller voir les lancements, etc. Ou ça construit un peu le rêve spatial, quoi. C'est vrai qu'en France, c'est peut-être un truc qu'on voit un peu moins, en tout cas à Paris. C'est vrai que je suis pas.
Ah non, mais on imagine que s'il y avait une fusée qui décollait du Bourget.
Non,
on
mais
serait
tu vois,
là,
même du. Non, même du sud, ou je sais pas, Toulouse, ou je sais pas, dans d'autres régions de France, où les gens pourraient se retrouver pour effectivement voir des lancements. Peut-être que ça crée un nouvel engouement.
Je reviens avec lui sur le fait que dans l'espace, on cohabite tous ensemble, dans l'ISS, même entre pays qui s'affrontent ici sur Terre.
bah, ça en dit long sur l'être humain, hein. Je pense que c'est un peu ça l'idée. C'est vrai que quand on sort dans l'espace, c'est sûr que on n'est pas sûr d'en croiser beaucoup des comme nous, donc je pense que c'est directement les gens, ouais, les barrières tombent et tout, hein, c'est sûr. Bon, après, on verra le jour où on sera installé. Ouais, moi je pense quand même que si jamais vraiment il y a un truc où on commence vraiment à partir dans l'espace, à utiliser, je sais pas, les météorites ou les planètes qu'on trouve, je pense qu'on reviendra sur des bonnes guerres comme on sait bien en faire, malheureusement.
Tu penses pas qu'il y aura un truc qu'on avance sous la barrière humanité?
C'est possible.
Possible, mais pas sûr. Et c'est peut-être ça, le vrai vertige de l'espace, à 400 km au-dessus de nos têtes, des nations qui apprennent à vivre ensemble, contraintes de coopérer pour survivre, là où pas de frontières, pas de discours, pas de posture, juste des corps qui flottent et des cerveaux qui s'accordent, comme si l'apesanteur nous rendait plus intelligents que la gravité.
Bravo pour tout ce que vous faites chaque après-midi en mêlant humour, bonne humeur et savoir. Zoom Zoom Zen est vraiment la meilleure émission du service public. Monique Noël, Genève. Merci, merci maman. Oui, nous vivons dans la société du commentaire. Mara Goyer, enseignante et essayiste, on vous doit notamment Collège de France, paru en 2003, un livre dans lequel vous racontiez votre quotidien de prof d'histoire-géographie dans un collège de la région parisienne. Vous écrivez aussi des chroniques dans le Nouvel Obs, mais si on vous invite aujourd'hui, c'est pour votre dernier ouvrage, La civilisation du commentaire, portrait de la vie en glose, chez Gallimard. Un ouvrage dans lequel vous nous plongez dans les méandres des commentaires en tout genre qui pullulent dans notre quotidien. On commente tout, hein, les restaurants sur TripAdvisor, les musées sur Google Maps, les vidéos sur YouTube évidemment, et même les péages d'autoroute. Tout est commenté, mais tout est commenté, ça c'est sur la quatrième de coupe, très déçu du péage de Saint-Arnoux. Tu m'étonnes.
Alors oui,
tu m'étonnes.
Mais à raison.
Tout est commenté, noté dans des styles parfois baroques. Qu'est-ce que cette pratique dit de notre société? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors dans ce livre, Mara, vous approfondissez l'acte même de commenter. Pour vous, c'est un acte politique, puisqu'avec le commentaire, on se retrouve tous à égalité. Finalement, tout le monde peut donner son avis sur tout et tout le monde en contrepartie. Tout le monde peut être commenté en permanence. Et est-ce que c'est positif, ça, d'être toujours sous le coup d'un commentaire, d'une note?
D'abord, le commentaire n'est pas toujours un avis ni une note. Ça peut être des notations extrêmement poétiques sur le péage de Saint-Arnoux. Non, mais voilà, c'est pas... En tout cas, je ne sais pas si c'est négatif ou positif. Les effets délétères du commentaire sont très connus puisqu'ils s'amènent au populisme, à l'illibéralisme, à la violence et au chaos sur Internet. Donc ça, c'est extrêmement connu. Mais dans le fond, c'est pas si c'est négatif ou positif. C'est un fait. Nous vivons dans un monde dans lequel... Et des millions et des millions de gens commentent dans un monde dans lequel chaque chose est commentée. C'est comme s'il y avait une écume autour de notre existence et du réel commenté, comme un double monde qui est celui du monde du commentaire, qui est un monde en lui-même. Et puis surtout, on ne vit plus de la même manière depuis qu'il y a les commentaires. C'est-à-dire que, pour prendre quelque chose de très simple, quand on va dans un restaurant, avant d'y aller, parfois on lit les commentaires. Après, on est imprégné des commentaires. Ouais. C'est-à-dire que si on vous a dit que la salade était dégueu, votre salade, ça va être un moment vraiment très important de tension quand elle va arriver. Vous allez dire, oh non, elle va être dégueu.
Ou du coup, on la prend pas, en fait.
Oui, voilà.
Et parfois, on passe à côté de plats parce que juste les gens ont des goûts.
C'est le drame.
Ah, oui.
Le drame. On n'en parle pas assez. Et ensuite, quand on y est, une partie de notre cerveau est accaparée par le mode commentaire, c'est-à-dire, oh non, il a trop salé, je pourrais en faire un commentaire. Alors, soit qu'on commente ou pas. Donc, il y a la possibilité de commenter qui nous anime.
Mais vous avez lu combien de commentaires pour faire ce livre?
Beaucoup. Beaucoup, mais surtout j'en ai lu des variés, c'est-à-dire pas que des avis sur des restaurants. Ouais. J'ai lu énormément de commentaires, notamment sur Amazon, sur des éponges, des fourchettes. Enfin, pour analyser les commentaires, je pense qu'il faut partir de ce qui est le moins polémique et ce qui semble le plus banal, parce que là, c'est là où on voit la vraie
force. Et vous regardez le profil des personnes qui commentent à chaque fois?
Non, quand même. Non. Okay. C'est pas possible non plus.
Il y a des gens qui peuvent faire une dissertation sur une éponge.
Ah, il y a des gens qui parlent d'une éponge. Déjà, il y a des gens qui discutent de leur mari avec une éponge. Ils disent, j'en ai discuté avec mon mari. Moi, c'est ça que je trouve fascinant. C'est qu'après, je ne regarde plus mon éponge de la même manière. Et après, il y a des gens qui font des photos sur Amazon de leur éponge.
Ah oui, ça...
L'évolution au fil du temps.
Oh, non.
Donc, non, mais c'est magnifique. Oui, mais quand c'est un fou. Plasticien fait ça, tout le monde trouve ça génial.
Ah oui, c'est dans un musée.
Mais voilà.
Un utilisateur qui commente, il fait pas d'argent, c'est bénévole. Et pourtant, il rentabilise un peu les plateformes. Comment ça marche, le modèle économique du commentaire? Plus il y a d'engagement, plus.
Évidemment, ça fait de la circulation. Ça fait des avis, ça fait des débats, des polémiques, et ça marche. Mais lui, non, il ne gagne pas d'argent, mais il a l'impression, C'est pour ça que c'est très important, à mon avis, de parler des motivations qui ne sont pas que odieuses et aigres pour commenter. Il y a des gens qui commentent pour rendre service, par exemple. Il y a des gens qui se disent que ça serait très, très, très grave que cette personne, des gens achètent cette éponge qui ne tient pas deux jours et qui est très moche.
C'est presque mignon.
Mais oui, mais ouais. c'est émouvant.
Il y a un côté d'entraide. Il y a
de l'entraide.
D'alerter.
Énormément.
On est un lanceur d'alerte de l'éponge, si j'ose dire.
Mais ouais, mais il en faut.
Il en faut.
Mais il faut savoir que quand on commente, il y a quelqu'un qui se fait de l'argent sur notre commentaire.
Bon, oui, mais un peu... beaucoup, oui. Mais on fait beaucoup de choses comme ça, je crois pas que ce soit vraiment le sujet. Le sujet, c'est ce besoin de commenter. Des gens, c'est pour s'occuper, des gens pour laisser une trace. Parce que même émouvant, ils racontent leur vie.
Vous dites que les commentaires sont des sortes de graffitis virtuels dispersés qui attestent de notre présence. En fait, on commente pour dire « Ouh, j'existe et j'ai acheté cette éponge,
avant,
moi aussi ».
Avant, on gravait nos initiales sur un tronc d'arbre. Ouais, maintenant, on épargne les armes. Déjà, c'est très gentil. Et on fait des commentaires. On commente pour s'entraider. On commente aussi, à mon avis, parce qu'on veut donner un peu de sens à notre existence et que ça devienne une expérience. On bouffe de la pizza, on se dit « Ouais, c'était une expérience, je vais en faire un roman ».
Mais est-ce que les commentaires sont lus? Est-ce qu'on commente pour être lu?
Oui, mais on ne commente pas pour discuter. On commente pour être lu, pour attester, pour produire, pour sublimer aussi la réalité de la vie quotidienne. Mais en revanche, je ne crois vraiment pas, c'est la différence avec les forums, qu'on commente pour discuter. On commente pour faire de l'effet, surtout. On veut faire de l'effet.
On va avoir la petite phrase, quoi.
Oui, et puis surtout, le but, c'est de marquer.
Merci Mara Goyer d'être passée nous voir dans Zoom Zoom Zen. Dans un instant, l'acmé du gai savoir avec le Zoom Zoom Test. On parlera aussi du travail reproductif. Manon Mariani nous enverra sa traditionnelle pièce jointe. Ce sera juste après Makala, Loketo sur Inter.
Feta, 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 feta vie en fête. Mata, mata, petit canta, position et kata, 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 tout distraction et yété, yété.
Tu m'as compris, non, tu m'as, j'ai compris, yeah, j'ai très bien compris, yeah, tout le monde va comprendre, comment, tu m'as compris, non, tu m'as, j'ai compris, yeah, j'ai très bien compris, yeah, tout le monde va comprendre. On a grandi avec Jeff Hardy, et Dardy, fuck le lundi, et mardi, vive mercredi, vendredi, je garde la vie, mais avant ce soir, j'étais posé dans ma breu. La daronne veut que je mette start pour le cop. Une carte Africa call. Dans mon texte, tout genre de. Dans mon texte, tout genre de grand. Y'avait ceux qui étaient des cracks à l'école. Ceux qui vendaient deux qui collent. Juste à côté de chez Jordi, Paul, Fried et Lewis. Échange, mon gars change. Dans le quartier, c'est une légende. Dans la ville, tu l'appelles peut-être Joao. Avec vivacité, je sais dire je t'aime. Insulté en plusieurs langues. Les vacances d'été, j'étais tout le temps aux avant-chères. Un texte pour plusieurs blettes. C'est le mélange qui m'a fait voyager. On a grandi avec. Tu m'as compris, non, fuck le lundi et mardi. Vive mercredi, vendredi. J'en garde la vie, mais avant que ce soit. C'est le premier dans ton mixtape.
C'est sorti moi, c'est un album qu'on a atteint. Dieu d'un soir. Quel mixtape?
Emma. Feta, 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 vie en fête. Mata, 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 petit quand en position est. Kata, kata, tout kata, kata, tout distraction est. Yete, yete, j'en ai à bêta l'air. Bientôt bêta zénith.
Zoom Zoom Zen, les meilleurs moments sur France Inter.
Qu'avons-nous donc fait aux astronautes français ? 3 ans que Thomas Pesquet me laisse en vue sur un stage. Jamais je n'ai été autant humilié depuis la fois où Olivier Rousteing n'avait répondu à aucun de mes 12 DM. Résultat, on se retrouve aujourd'hui à faire 1 heure sur la mission Epsilon de Sophie Adnaud dans l'ISS avec Alain Sirou. Même pas une syllabe en commun, soi-disant parce que madame serait déjà en Floride pour se préparer au lancement. Attention Sophie, à pas devenir snob avant d'être connue. Mais allez, pas rancunier je suis, puisqu'on va quand même jouer au Zoom Zoom Test, un spécial secret d'astronaute. Non Alicia, tu peux enlever cette musique, pas ce genre-là de secret. Quoique, jouons au Zoom Zoom Test.
Dommage.
Non, ça sera pour après, puisque le gagnant du Zoom Zoom Test remportera Sex in Space, le livre de chevet d'Alain Sirou qu'il nous a apporté, qui est interdit par la NASA. Vous verrez, c'est passionnant. Et on démarre par ce phénomène physiologique qui à lui seul explique que Quentin rêve d'aller un jour dans l'espace. Séjourner dans l'ISS permet de grandir de plusieurs centimètres. La question est évidemment de combien. Alors à vos calculettes. Si jamais demain, lassé de dominer la NBA, Victor Wembanyama décide de partir en mission sur l'ISS, quelle taille fera-t-il à son retour sur les parquets, sachant qu'il fait actuellement 2m24 ? Il fera 2m27 ? 2m29 ? Ou le chiffre rond de 2 Quentin ?
Ah, j'ai dit avant.
Mais pourquoi vous dites...
Je l'ai dit.
Mais c'est pas... Oui, vous l'avez dit en même temps.
Peu importe, puisque la bonne réponse était la réponse B. Wemby sera complètement injouable puisqu'il mesura 2m29, soit 1,5 Quentin. Dans l'espace, le phénomène de la microgravité fait qu'en apesanteur, la colonne vertébrale est étirée. Résultat, l'astronaute grandit en moyenne de 3% de sa taille sur Terre. Ah. Chez Thomas Pesquet, ça représentait 5 cm. A noter que ses chevilles, elles, avaient enflé dans des proportions bien plus importantes encore. Mais restons focus sur l'objectif de la mission, arriver sain et sauf à bord de l'ISS.
Jamais,
là-haut, c'est un peu l'auberge espagnole, on l'a dit. Les Américains, les Français, des Japonais, des Canadiens et même, oui, désolé Cyril, des Russes, des Popov, comme dirait notre ami le colonel Pierre de Jong. Mais pas de Chinois, puisque la Chine a sa propre station spatiale Tiangong, plus petite que l'ISS, car conçue pour accueillir seulement 2 Yuangonautes, de Yu, univers et Hang, voyager. 3 Taïkonautes, je vous demande comment s'appellent les 3 Taïkonautes, de Taïkon, le cosmos. Ou 4 Longonautes, de Long, le dragon.
B.
Ben non.
Quoi ?
Vous êtes sûr de votre réponse ?
Bah non, mais bon.
Non, vous n'êtes pas sûr. On en a déjà parlé dans Zoom Zoom Zen. C'était effectivement les Taïkonautes. Évidemment, quand un réponse B, je vous présente.
Vous en avez déjà parlé, mais comment vous en souvenez ?
Yang Liwei, qui fut le tout premier Taïkonaute à rallier la station de Tiangong en 2003 à bord de Shenzhou 5. Un voyage marqué par un phénomène sonore troublant. D'après vous, lequel ? Un toc-toc-toc bizarre contre la paroi du vaisseau. Un bruit semblable au chant d'une baleine à bosse. Ah. Ou un bruit semblable à celui qu'émet Alain Sirou quand il est bourré. Imaginez, vous êtes seul dans l'espace, vous entendez ça, vous flippez.
Bah oui, est-ce que...
Ouais,
je vais dire autre chose, peut-être, B.
C'était effectivement une bonne réponse de Manon Mariani. La réponse A, toc toc toc, c'est qui ? C'est le gay savoir, ouvrez-moi, ça caille dehors. Fascinant, Cosmos. Fascinant, car oui.
Écoutez, j'ai des frissons de maintenant.
J'imagine, moi aussi. Yang Liwei a entendu un son étrange, comme si quelqu'un frappait contre la paroi de son vaisseau spatial avec un marteau. Malgré ses vérifications par le hublot, l'astronaute, enfin le taïkonaute, n'a trouvé aucune explication, puisque le son ne circule pas dans l'espace. Pourtant, le phénomène dit du toc-toc impossible a été à nouveau constaté par la suite en 2005 et 2008. Un phénomène toujours donc inexpliqué, sauf par Cyril, qui, très déçu de son dernier achat sur Temu, nous disait hors antenne « Les fusées fabriquées par les Chinois, c'est comme leurs poupées gonflables, ça craque de partout. » Mais restons dans l'ISS. Restons dans l'ISS, on y est si bien, puisque figurez-vous que c'est Anne-Sophie Pic qui a préparé les menus de Sophie Adnaud. Écoutez ça. Soupe à l'oignon au baies roses et croutons gratinés, volaille au poivre de Votesperi, fèves tonka et polenta crémeuse au comté, crème au chocolat à la fleur de noisette et au café. Des larmes de joie coulent sur le visage buriné de notre rédacteur en chef en régie, ce qui serait impossible dans la station spatiale, car dans l'espace, les larmes ne coulent pas. Elles forment une boule au coin de l'œil. Ou les glandes lacrymales sont tout simplement bouchées en apesanteur, ou dans l'espace, on pleure de la poudre de sel.
Je suis devant, je crois.
Et je pense qu'effectivement, Manon est devant.
C'est
bonne
fou.
Réponse
c'est
de Manon.
Incroyable.
Réponse à fascinante nature en apesanteur. On y grandit de 5 cm, on pleure des bouboules de larmes. Et ce n'est pas tout. Un autre phénomène se produit quand on se tape de la polenta crémeuse Anne-Sophie Pic à 400 km au-dessus du plancher des vaches. Selon vous, lequel ? On perd 30% de sa vision, ce qui pour Manon, la taupe du 12e, signifierait devoir apprendre à lire en braille. On perd la corne des pieds. Quoi ? Où on sent le barbecue.
Quoi ? Non, voilà. J'ai pas assez suivi.
Eh bien, ces trois possibilités physiologiques, qu'est-ce qui se passe dans l'espace ?
Les trois ?
Oh Non, les trois, vous avez à peine écouté la question et vous avez la bonne réponse. C'est fou. C'est fou, Quentin.
C'est pas Quentin, c'est fou.
Et oui, Quentin.
Je ris.
Et oui, Quentin, réfléchissez-y à deux fois avant de vous inscrire à cette formation de la NASA. Vous mesurez peut-être enfin vraiment 1m70 à votre tour, mais en contrepartie, vous y verrez aussi clair Carole Barbet et vous sentirez la merguez grillée à 3 km. Pas sûr que vous soyez gagnant. En effet, l'accumulation du sang dans la tête affecte la vision, mais aussi aplatit légèrement les globes oculaires. Quant à l'odeur de brûlé, les astronautes la décrivent comme proche de celle qui imprègne nos vêtements quand on sort d'en déjeuner aux Amman, notre Libanais de cœur, nu de Versailles. La réalité est en fait moins réjouissante. Sophie Adnaud, si tu nous entends, écoute bien ça. T'as peut-être encore le temps de renoncer à la mission. Sur une commande de la NASA, le chimiste Steve Pearce est parvenu à reproduire l'odeur de l'ISS. Pour s'en faire une idée, il dit qu'il faut imaginer l'odeur de transpiration des pieds, un corps qui dégage un parfum rance, et mélanger le tout avec du dissolvant et de l'essence. De quoi, clairement, selon moi, ruiner l'expérience Anne-Sophie Pic. Donc, chère Sophie, si vous voulez découvrir ce qu'elle fait, faites comme moi. Elle est plutôt à Valence. Défaite ouais. de la gastronomie et victoire de Manon Mariani, notre reine de l'espace. Vous remportez, Manon, Sex in Space.
Ça, je suis super contente.
Le livre de chevet d'Alain Sirou. Florence Janicatrice, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Florence, vous êtes économiste, chercheuse à l'université de Rouen, en Normandie, une ville qu'on adore. Et vos travaux se concentrent essentiellement sur la socio-économie des services et sur l'économie de la qualité, l'emploi des femmes dans les activités dites de service à la personne et les activités du care, un mot qu'on emploie beaucoup. C'est justement dans ce secteur qu'on retrouve ce travail reproductif. Il faut être clair, sans le travail reproductif, c'est la fin du capitalisme. Ça, c'est ce que les capitalistes oublient peut-être un peu vite.
Sans le travail reproductif, en tout cas, il n'y a pas de possibilité de renouveler la force de travail et donc d'avoir de la production marchande et d'avoir une activité économique, de toute évidence. Oui, c'est une condition de possibilité du capitalisme. Et comme on l'a dit tout au long de cette émission, c'est un travail extrêmement invisible, invisibilisé et très peu rémunéré lorsqu'il l'est, puisqu'il y a aussi tout ce pan de travail gratuit.
Est-ce qu'il faudrait donner un statut à ces travailleuses qui sont en première ligne, un statut global?
Un statut global du travail reproductif, je ne pense pas. Travailler notamment pour faire reconnaître les compétences qu'elles mettent à disposition dans des métiers qui nécessitent souvent beaucoup d'autonomie, de prise de responsabilité et d'initiative, ça serait le minimum. Il y a un certain nombre de chercheuses qui essayent de mettre en place des grilles de rémunération où on pourrait avoir des rémunérations équitables, toutes choses égales par ailleurs en termes de compétences. Parce qu'évidemment, ici, on a souvent des métiers qui sont que féminins, donc c'est difficile de redresser comme ça le travail. Il faudrait sans doute aussi que ce soit des métiers qui soient plus protégés par de l'action collective, par de la syndicalisation, parce qu'il faut
c'est
le reconnaître, les syndicats aussi ont leur part de responsabilité. Pendant longtemps, ils ont considéré comme rentables aussi les activités industrielles, parce que c'était là où il y avait les gros effectifs, en quelque sorte. Et les métiers féminins sont souvent plus émiettés, ils sont pas tous au même endroit, donc c'est difficile de les mobiliser. Mais c'est évidemment les deux grandes questions qui doivent être posées.
Est-ce que l'IA peut changer la donne ? On dit que l'intelligence artificielle va bousculer le monde de l'emploi, qu'elle va détruire certains emplois, en créer d'autres peut-être. Est-ce que ça peut avoir un impact sur ce travail qu'on appelle reproductif ?
C'est toujours difficile de parler en termes prospectifs, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ce sont des métiers qui sont quand même caractérisés par une très forte densité de relations interpersonnelles et de relations sociales. Et donc, autant l'IA, on voit bien le type d'activité presque cognitive qu'il peut éventuellement remplacer, mais sur ces activités qui nécessitent vraiment de la relation interpersonnelle, mis à part, ils mettent des robots comme un peu dans les pays asiatiques où on sent qu'il y a des prémices d'éléments comme ça qui peuvent arriver. L'automatisation, par exemple, qui a quand même emporté toute une partie de l'emploi ouvrier à la fin du XXe siècle, n'a pas du tout emporté ces métiers, bien au contraire, il les a plutôt multipliés. Et donc, je pense que c'est pas la grande menace qui pèse sur ces métiers, il y en a bien d'autres qui pèsent sur eux, et sur elles surtout, mais pas tant que ça l'y a.
Au-delà de la dimension très genrée de ce travail reproductif, est-ce qu'il faut aussi intégrer, on l'a entendu dans le micro-trottoir, une dimension un peu ethnique ? Beaucoup de postes sont occupés aujourd'hui par des personnes immigrées, c'est une réalité, sans femmes, tout s'effondre, mais sans immigration, tout s'effondre aussi.
Alors oui, c'est vrai, sans femmes et sans immigration, tout s'efface ou tout s'effondre. On a vraiment des emplois de la double peine, c'est-à-dire des emplois peu reconnus, peu valorisés et dont les conditions de travail souvent très dégradées et des métiers pénibles sont pas compensées par un supplément de salaire. Et cette triple dégradation presque, ou cette triple peine, fait que ce sont des métiers qui sont souvent pris en charge par des personnes issues de l'immigration, en effet. Alors, il y a des féministes qui évoquent ça sous l'angle de l'intersectionnalité, c'est-à-dire qu'on a à la fois la problématique des inégalités de genre et des inégalités de race qui traversent l'ensemble de ces métiers de la reproduction.
L'heure d'ouvrir la pièce jointe de Manon Mariani.
Un film.
J'en ai marre d'entendre parler de la crise, du chômage, de la précarité d'une façon abstraite. J'ai besoin de voir, de partager le quotidien, pour voir ce qui se passe vraiment.
Vous entendez la voix de l'actrice Juliette Binoche dans le film réalisé par Emmanuel Béham. Il est sorti en 2021. Il est adapté du livre de la journaliste Florence Obna, Le Quai de Ouistreham, sorti en 2010 et qui avait énormément fait parler de lui. Et pour cause, Florence Obna a réalisé une enquête où pendant 6 mois, elle s'est fait passer pour une femme démunie qui enchaîne les travails précaires. Son but est de comprendre l'impact économique sur ces personnages et leur exclusion sociale. Des personnes qui sont, on l'a dit, invisibilisées par la société alors qu'elles sont à côté de nous. Parmi ses nombreux emplois, l'un d'eux consiste à nettoyer les ferries, assurant la liaison entre Caen Ouistreham et Portsmouth, d'où le titre de l'ouvrage. Le film d'Emmanuel Carrère reprend le même pitch, à la différence près que Juliette Binoche n'est pas journaliste, mais elle est écrivaine. Le film suit son parcours, le personnage de Marianne Winkler, qui décide de se faire passer pour une demandeuse d'emploi pour enquêter sur les conditions de travail des travailleurs précaires. Elle trouve des missions de ménage dans des hôtels, sur des ferries et chez des particuliers. L'action se déroule donc à Ouistreham, ville portuaire de Normandie. Le film montre un quotidien fait de contrats courts, de galères, d'horaires difficiles, de pénibilité physique et surtout d'une instabilité permanente. Des emplois indispensables mais faiblement rémunérés et peu reconnus. La particularité du film, c'est qu'une grande partie des rôles secondaires est tenue par des acteurs non professionnels, souvent issus de ces milieux. C'est le cas notamment d'Hélène Lambert, agente d'entretien dans la vie, qui interprète le personnage de Christelle, une collègue et amie de Marianne. Elle joue donc un rôle très proche de sa propre réalité et elle dit à plusieurs reprises que des situations présentées à l'écran étaient des situations qu'elle vivait réellement. Pour elle, il faut que les sociétés fassent en sorte qu'elles ne soient plus invisibles. Elle dit, je la cite, « Si nous ne sommes pas là, vos bureaux ne sont pas propres, donc on peut travailler ensemble et pas forcément la nuit. » Le film dénonce tout un système et rappelle que la précarité ne concerne pas seulement les personnes sans emploi, mais aussi une partie croissante de celles et ceux qui travaillent.
Merci Manon. Florence Jenny-Catrice, d'un mot, est-ce que Ouistreham, c'est le film à voir pour comprendre et se prendre en pleine tête ce que c'est le travail reproductif ?
Absolument, c'est un film absolument remarquable. Vraiment, c'est un très bon choix. Une partie de la revisibilisation, en effet, des travaux, en particulier des ménages, peut passer par le fait qu'on n'impose pas à ces femmes de venir travailler quand les personnes ne sont plus au travail eux-mêmes.
Ça, on voit que
et ça,
ça
c'est
pas
juste
miracle.
Une organisation et ça permet de revaloriser aussi les tâches qu'elles réalisent. Mais, et pour un ensemble d'autres tâches, de toute façon, elles se font que dans l'interface avec les personnes. L'aide à domicile, il faut bien qu'il y ait à la fois la personne âgée dépendante et la salariée.
Merci Florence Jarry-Catrice. Dans un instant, la chronique de François Rollin. Après Alison Mossart, It Ain't Water sur Inter. Et je confirme. We'll be right back.
France Inter, les meilleurs moments de Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël et toute sa bande.
Enfin, il semblerait que dans la vie, il n'y ait pas que deux choses auxquelles on n'échappe pas, la mort et les impôts. Il y a aussi, en ce qui nous concerne du moins, François Rollin. Bonjour François.
Bonjour, bonjour, cher Mathieu. Alors, longtemps, je me suis couché de bonne heure, mais hier soir, j'ai fait une exception, j'ai veillé jusqu'à tard dans la nuit. J'avais en effet été saisi d'une injonction transcendantale consistant à traduire l'œuvre intégrale de Fiodor Dostoïevski en portugais. Et ça ne se fait pas en 5 minutes, figurez-vous. Alors, certes, il existe déjà une traduction de Dostoïevski en portugais. Il en existe même 3, mais à mes yeux, elles ne sont pas satisfaisantes. La traduction de Raimondo Pérez Sanchez passe, selon moi, complètement à côté de l'esprit de Crime et Châtiment. Celle de Jacques-Henri Soumaintrin est, à contrario, formidable sur Crime et Châtiment, mais elle dérape de manière assez malsaine dans la traduction des frères Karamazov. Quant à la proposition de Nicole Malinovitch, elle est inachevée en ce qui concerne l'idiot, ce qui la disqualifie totalement. Alors vous allez me dire, on ne peut pas en vouloir à Nicole Malinovitch d'être morte en plein travail. Je répondrai qu'un traducteur sérieux évite de manger du poisson à grosses arêtes en travaillant, s'il ne veut pas mourir étranglé et étouffé dans d'atroces souffrances, comme ce fut le cas de notre concert, Nicole. Pardon. Bref, je sentais hier soir que le monde attendait de moi une vraie bonne traduction de Dostoïevski dans la langue de Fernando Pessoa. Cette simple idée me mettait une pression intenable que j'ai combattue en buvant des bières pression, justement, jusqu'à m'écrouler à 6h30 du matin. Ceci vous explique qu'à mon réveil à midi, j'étais un peu en vrac, comme disent les jeunes, un peu azimuté, comme disait mon père qui était polytechnicien. Et donc, je me souvenais assez distinctement que vous m'aviez confié une mission de confiance. Mais quant à dire la nature de cette mission, j'avais beau torturer ma mémoire ambrée, je ne trouvais que peau de balle et balai de crin. Expression par laquelle, je le mentionne au passage, j'avais pensé dans la nuit traduire le Nietzschevo de la nouvelle Les Nuits Blanches de Dostoïevski, parce que rien, le mot rien, ça dit bien ce que ça veut dire, mais peau de balai et balai de crin, ça a quand même nettement plus d'allure. À un moment, vers 13h, il m'a semblé me rappeler que vous m'aviez confié la mission d'écrire un quatrain plaisant et drôlatique avec exclusivement des rimes en chon, comme cornichon, berrichon, torchon, reblochon, cochon et l'impayable califourchon. J'ai commencé à y travailler, mais j'ai bloqué sur folichon. Terrorisé par ce mot qui ne s'emploie que dans la négation. On dit « c'est pas folichon », mais on ne dit jamais « c'est folichon ». Aïe, aïe, aïe. Et puis, il m'est apparu que cette mission de poème en chonchon n'était que la rémanence d'un cauchemar dans lequel je voyais votre rédacteur en chef Cyril Lacarrière, qui est au demeurant nettement plus chef que rédacteur, me hurler « n'oubliez pas Nichon et Tire-Bouchon, ça fera rire l'autre grand cruchon ». Mais encore une fois, c'était un cauchemar, on oublie. Finalement, c'est à 15h30 que je me suis souvenu que ma mission consistait à analyser et critiquer constructivement vos émissions de la semaine écoulée. Il était malheureusement trop tard pour entrer dans les détails. Je vous propose donc un résumé ainsi libellé. C'était ni fait ni à faire. Voilà. Prochaï, Malich, que je traduis par « Atelogul, rapace ».
Merci François Rollin et merci à notre réalisatrice Alicia Vulot. Nous on se donne rendez-vous lundi, on parlera de parité en politique, vaste programme, à un mois des municipales, quand faire des listes devient un casse-tête. D'ici là, bon week-end à l'écoute d'Inter.